Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service. Nous allons parler de la participation politique de la femme. Quelles sont les forces et les faiblesses de la loi électorale par rapport à cela? Madame Angèle Mouadi est femme politique. Elle est notre invitée dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service. Si vous voulez intervenir, appelez au 099 706 99 41. 099 706 99 41. C'est le numéro par lequel vous pouvez appeler pour participer. Pierre Diassino à la mise en onde, Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous. Quelles sont les forces et faiblesses de la loi électorale actuelle par rapport à la participation politique de la femme? Vous savez, la RDC est à son quatrième cycle électoral. Plusieurs innovations ont été apportées dans la loi électorale afin d'améliorer l'organisation des élections. Par exemple, l'article 13 de cette loi stipule que la liste des partis politiques qui aura plus de 50% des femmes sera exemptée de la caution. Certains observateurs affirment que cette disposition n'a pas été appliquée, n'a pas été d'application au cours de ces cycles. Alors, quelles sont les autres dispositions? Quelles sont les forces, les faiblesses de cette loi électorale en vigueur? Madame Angèle Mouadi, vous êtes femme politique. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Alors, la première question est bien entendu de savoir quelles sont les forces et les faiblesses de la loi électorale actuelle que vous avez pu relever.
Ok, merci pour la question. D'abord, la loi de l'article 13, là, demande à tout parti politique ou regroupement politique qui aurait atteint 50% de femmes sur la liste électorale, il sera exempté de paiement des cautions électorales. La force, c'est que la loi est là, mais la faiblesse, c'est qu'elle n'est pas contraignante parce que les faiblesses sont qu'il n'y a pas eu vraiment de suivi pour contraindre le parti politique à aligner par égal les femmes sur la liste électorale. La loi est là, elle devrait être suivie de mécanismes contraignant le parti politique ou le groupe politique, parce que les indépendants ne sont pas concernés par ça, parce que c'est au parti politique et au groupe politique d'aligner le nombre égal des hommes et des femmes. La loi est là, c'est la force parce qu'elle est déjà loi, elle est déjà là, mais ces contraintes-là, il fallait. Les faiblesses sont que c'était une loi comme ça. Elle est là, mais il n'y a pas de contraintes qui peuvent faire que le parti se voit dans l'obligation d'aligner le nombre égal des hommes et des femmes sur les listes électorales.
Voilà. Par rapport à ces cycles électoraux, est-ce que vous avez une idée, par exemple, du nombre de femmes alignées par les différents partis politiques? Est-ce qu'il y a eu le respect de cette disposition de 50% des femmes sur les listes électorales?
Oui. Merci encore pour la question. Jusque hier, je m'entretenais avec le gens de la CENI pour avoir pour savoir s'il y a des partis politiques d'abord ou des groupements politiques qui ont su aligner le nombre égal des hommes et des femmes sur les listes électorales. Jusque-là, je n'ai pas eu une réponse. Et voir sur le tableau de la RDC, les partis qui ont su obéir bien, qui ont su pratiquer cette disposition jusque-là, je n'ai pas la réponse jusque-là.
Okapi.
bien, la RDC a son quatrième cycle électoral. Plusieurs innovations ont été apportées dans la loi électorale afin d'améliorer l'organisation des élections. Mais il y a quelques lois qui peuvent poser problème. Par exemple, on a parlé de l'article 13 qui stipule que les partis politiques qui auront plus de 50% des femmes sur leur liste seront exemptés de la caution. Certains observateurs affirment que malgré cela, les partis n'ont pas respecté cette disposition, n'ont pas aligné les femmes à des différents niveaux. Alors, nous avons en ligne Madame Angèle Moadi, qui est femme politique. Madame Angèle, vous êtes là?
Je suis là.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'au niveau des partis politiques, on n'a pas senti cette volonté d'aligner beaucoup de femmes, disons, d'aligner 50% des femmes comme c'est dit dans la loi électorale.
Ok, merci beaucoup pour encore la question. Vous avez dit qu'il y a eu cette loi, l'article 13 de la loi électorale qui dispose que le parti politique ou regroupement politique qui aurait aligné 50% des femmes sur la liste électorale serait exempté du paiement de la caution électorale. Nous avons parcouru les partis politiques pour voir s'ils ont respecté cette disposition égale. La femme, on ne va pas la tirer de la maison pour qu'elle vienne postuler. Nous avons intervenu sur EducTV pour dire que La participation politique est un processus. On ne doit pas dire qu'aujourd'hui, là, directement, on doit faire la part égale 50-50 entre les hommes et les femmes. Oui, c'est un processus, mais je suis membre d'un parti politique. Mmh. Dans mon parti politique, il y a eu organisation, il y a eu une structure qui est mise en place pour s'occuper des élections, de la préparation des élections. À cette structure-là, elle avait son critérium pour prendre une femme ou bien un homme à l'élection, que ce soit à l'échelon présidentiel, législatif national, provincial et communal. Et c'est au parti politique de voir pourquoi ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait cela. Et aussi, vous savez que la politique chez nous était d'abord l'apanage des hommes. Les femmes nous y entrons d'une manière un peu lente, comme c'est un processus. Je ne saurais pas directement dire qu'il y a condamné les partis, non. Les femmes doivent d'abord se présenter. Cet engouement-là, il y a eu des femmes qui se sont présentées. Et quelques-unes sont retenues. Parce que je suis parmi celles qui sont retenues dans mon parti politique.
Parce que dans les différents partis politiques, il y a toujours des organisations des femmes qui sont dans les partis politiques. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas eu assez de femmes? Et pour cela, on n'a pas aligné beaucoup de femmes, ou soit elles n'ont pas répondu aux critères, aux critériums?
Bon, les organisations des femmes, là, vous parlez de la Ligue des femmes dans chaque parti politique.
Oui.
Oui, les femmes ne sont pas seulement dans la Ligue des femmes, elles sont dans presque toutes les structures dans différents partis politiques. Ce que je vous dis, que dans mon parti politique, il y a une structure qui s'occupe des élections électorales, c'est la commission électorale permanente. Elle était chargée du recrutement à partir des cellules de base, des sections, des fédérations et d'études, d'analyse des différents dossiers. Ils ont adopté ce qu'ils ont adopté. C'est pas à moi de savoir les critères qui ont été posés, quelles sont les manœuvres qu'ils ont mises en place pour retenir les candidats. Mmh. Je vous dis que c'est une lutte qui n'a pas encore atteint la satisfaction. Comme étant un processus, les femmes, nous devons toujours nous battre. C'est un pas. Nous allons encore mettre un autre pas pour ne pas croiser les bras pour dire qu'il y a un pays. Non. Les femmes se sont présentées et il y a aussi quand même une avancée par rapport au nombre qui est là. Nous voyons les femmes dans presque tous les secteurs plutôt. Elles sont là. Et c'est un pas. Ça commence toujours par quelque part et pour aller quelque part. Donc oui, c'est un processus. Nous attendons pour avoir toujours un grand nombre par rapport à notre loi qui nous est, par rapport à la cible 14 qui nous dit qu'on doit être, on doit avoir un chiffre égal entre les hommes et les femmes. Là, je parle de la parité. Merci.
Voilà, on retient que la loi, cette disposition de la loi électorale est saluée à sa juste valeur, mais il y a encore de faiblesses parce qu'elle n'a pas un caractère contraignant. On va accueillir Albert de Kasumbalesa. Bonjour.
Bonjour, bonjour, monsieur Jody.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux forces et aux faiblesses de la loi électorale en ce qui concerne la participation de la femme?
Oui, merci beaucoup pour l'accord du verbe. Moi, je salue d'abord l'initiative du fait que cette loi, elle est venue en conformité pour faire quand même voir les femmes qu'elles ont affaire au pays. Mais je retourne un peu à l'invité, et c'est à elle que je devrais poser un peu une petite question. Nous avons beaucoup de partis politiques, et dans ces partis politiques, nous avons autant de femmes qui ont aussi des visions politiques. Alors, les problèmes qui se posent à ce niveau-là, moi je demanderais à madame de nous expliquer un peu qu'est-ce qui fait que les femmes puissent être faibles pour poser leur candidature. Parce que quand nous sommes en train de faire des analyses dans cette politique qui se passe au Congo, on a moins de 50% qui participent à des activités politiques, les femmes surtout. Alors, l'invité peut d'abord nous expliquer aussi ou nous donner quelques raisons pour lesquelles les femmes ne veulent pas faire un peu aussi ce travail-là pour faire évoluer le pays aussi en avant. Voilà un peu ce que j'avais comme une petite question.
Merci Albert de Kasumbalesa. Madame Angèle, vous avez la parole.
Ok, d'abord je rectifie, je suis Madame Angélique Mouadi. Je ne suis pas Angèle.
Ah, d'accord. Madame Angélique Mouadi, merci.
Merci beaucoup pour l'auditeur qui nous a capté depuis Kasumbalesa. Vous savez que l'activité politique a aussi des fois des conditions quand les gens le voient comme une activité immorale. Et suivant nos préjugés, en tant que femme, les gens croient que quand la femme est politique, il y a des choses qui se passent derrière la tête. Alors que ce n'est pas ça. Mais tout ce que vous pensez là, la femme n'est pas seule. Nous voulons aller, comme je venais de dire que c'est un processus, vers un partenariat où l'homme et la femme, l'homme congolais et la femme congolaise se mettent pour la construction d'un avenir meilleur pour les générations futures. Souvent, il y a des hommes qui pensent que si ma femme fait la politique, ma soeur fait la politique, elle va, entre guillemets, elle sera immorale, tout ça. Non. Les hommes, vous devez encourager les femmes qui viennent en politique, les considérer comme vos égales. Vous comprenez un peu, monsieur, qui a posé la question.
Oui.
Encourager les femmes, encourager les filles à partir. La participation politique, c'est pas seulement postuler. Quand les femmes font un meeting, les femmes marchent, les femmes sont là dans des manifestations, c'est déjà une participation politique. Mais quant à occuper les postes de prise de décision, c'est la méritocratie. Et dans nos partis politiques, nous avons des femmes, nous avons des têtes bien faites parmi ces femmes-là. Cette femme, moi, les droits ne se donnent pas et se gagnent. Cette femme de se battre parce que je viens de vous dire que depuis longtemps, la politique était l'apanage de ces hommes. Les hommes ont précédé en politique. Ils ne vont pas accepter qu'ils soient remplacés facilement comme ça. C'est un champ. Le champ politique est un champ de rapport de force, de lutte et de positionnement. Donc, les femmes doivent être en mesure, elles doivent être à même de convaincre, de faire voir aux hommes que nos têtes là fonctionnent comme les vôtres. Et nous ne verrons pas, la lutte n'est pas la lutte musculaire, bien la force musculaire, non. La lutte des idées, on voit que non, dans celle-ci, elles peuvent faire quelque chose. Moi, je vois des hommes qui encouragent des femmes à faire la politique. Les femmes, les hommes qui. Moi, j'étais chef de promotion à l'université de Kinshasa. C'était un professeur qui m'a dit, madame, vous avez les capacités. Vous pouvez oser postuler, vous verrez qu'il y aura des hommes derrière vous. J'étais élu chef de promotion. Et quand il y a des hommes qui vous aident, qui boostent les femmes à aller de l'avant, je pense que la femme, d'abord, elle a confiance en elle-même. Elle voit les hommes l'encourager, la soutenir. Je pense qu'elle va aller de l'avant. Je veux dire que nous sommes dans un processus. Nous avons commencé à voter après les hommes. Les hommes ont pris part au vote après nous. Et nous ne nous croisons pas les bras, nous avançons mollo jusqu'à ce qu'il y ait ce partage légal entre les hommes et les femmes. Merci.
Mmh. Vous avez dit tout à l'heure que cette loi n'est pas assez contraignante. Alors selon vous, qu'est-ce qui devait être, quelles dispositions on devait mettre pour la rendre un peu plus contraignante?
Vous voyez, même dans cette loi électorale aussi, les cas des témoins et des observateurs, ils ont parlé, les témoins doivent être ça, et quelque part, il est écrit que, mais l'absence des témoins ne justifie pas, l'absence du témoin ou de l'observateur ne justifie pas l'annulation du vote. Vous voyez, que le témoin soit là ou pas, le vote va se passer et le scrutin sera accepté. C'est comme ça qu'il fallait mettre des mesures vraiment contraignantes pour dire que les partis qui ne vont pas atteindre ça, bon, entre guillemets, avec, on doit relativiser, les partis qui ne vont pas atteindre ce nombre égal des hommes et des femmes, peut-être ne sera pas admis, par exemple.
Mmh.
Mais quand on dit que non seulement que le parti qui doit aligner 50% de femmes, ce qui veut dire que ça sera aussi 50% des hommes sera acquitté du paiement de la caution. C'est vraiment bon. C'est bien, comme j'ai dit, que c'est une mesure qui est déjà là, mais elle n'est pas contraignante. Elle n'est pas contraignante.
Voilà, elle n'est pas du tout contraignante. Y a-t-il d'autres alors quelles sont les forces alors bon là ça on peut comprendre que c'est une faiblesse. Alors mais quelles sont les forces de cette loi électorale que vous avez pu relever?
Je vous ai dit que cette loi ses forces sont que elle est là, elle encourage, parce que quand vous lisez, si la femme prend conscience que on vous a déjà donné 50% dans les listes électorales, il y aura un engouement. Des femmes qui vont s'aligner, qui vont donner leur candidature à tous les scrutins, au niveau de tous les scrutins, parce qu'il y a la loi là qui dit ça. Et c'est au parti politique aussi, comme vous m'avez posé la question, de faire en mieux que, en sorte que les femmes soient sur les listes électorales à de bonnes positions. Parce que quand je vois la loi, avec cette loi, avec les élections, si la femme sort peut-être quatrième sur une liste, alors qu'il y a trois hommes devant là. Je ne vois pas la loi dire que quand il y a une liste électorale, après les recueillements, si la femme est quatrième, on doit la prendre à la place des hommes. Non. C'est ce que j'ai dit, que c'est un champ de rapport de force, de lutte, de positionnement. Quand elle n'est pas positionnée à la première place, elle se verra rejetée sur la liste et ce sont les autres qui vont passer.
Bien, on va accueillir Roger Marcel de Kinshasa. Bonjour Roger.
Bonjour Monsieur Jeudi, bonjour à tous les invités. Monsieur Jeudi, il est avec que cette loi, c'est une loi qui a apporté vraiment de nouvelles initiatives, malgré qu'il y a encore des faiblesses. Parce que c'était prévu que dans chaque parti, dans chaque recrutement, où on pouvait aligner quand même le nombre de femmes, on pouvait quand même essayer de réduire un peu leur pression. Et c'est ce qu'on a dit, c'est quelque chose qui ne s'est pas réalisé. Peut-être on peut condamner quand même le parti politique, mais quand on regarde vraiment à l'intérieur, il faut aussi voir aussi que les femmes aussi se donnent à la politique. Il faut aussi regarder aussi l'air du vote. Parce que, en postulant, il y a toujours des niveaux. Si quand même dans un parti politique, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas aussi de niveau de postuler, ça pose aussi un grand problème. Moi, je pense que ça pouvait être des gens défis au parti politique qui pouvaient quand même motiver une dame aussi de beaucoup se donner aussi à la politique. Je pense qu'il y a encore des faiblesses là que j'ai eu à voir. Parce que c'était signé que chaque candidat ne puisse pas aligner aussi, le suppléant, le membre de sa famille. Mais tout ce qu'on a eu à constater, les députés ont pris toujours leur membre de famille pour mettre au poste de suppléant. Je pense quand même que cette loi a apporté quand même des nouvelles initiatives, parce qu'en regardant même la constitution qui a été respectée à l'article 14, en regardant même, il y aura quand même des publications, je pense, qui sera quand même par bureau, c'est chaque bureau où on va compter pour publier un peu les résultats. Je pense quand même, avec cette loi, il y a eu quand même des initiatives. Dans notre pays, on a toujours des bonnes lois, mais qui ne sont pas toujours respectées. Je pense que si cette fois-ci, on pouvait mettre quand même quelque chose pratique, je pense que prochainement, on pourra que nous entamons encore. Si on passe 2023, on aura quand même un cinquième cycle électoral. Je pense qu'à chaque électoral, si on pense toujours à améliorer des choses, je pense qu'on pourra quand même nous compter quand même en Afrique, parce que nous sommes quand même comptés parmi le pays, la démocratie, la règne aussi. Je pense qu'il n'y a pas toujours quelque chose. Nous, on sait toujours que saluer ce genre d'initiative. Merci, M. Jeudi.
Bien, on peut toujours améliorer à chaque cycle électoral. Madame Angélique Mouadi.
Je vous écoute.
Qu'est-ce que vous pouvez dire à cet auditeur par rapport à sa réaction?
Oui, je le remercie d'abord de nous suivre. Il n'a pas dit le contraire de ce que j'ai dit. Il a dit la loi est là, c'est quand même quelque chose d'accepté. Il dit que c'est un travail de faire au niveau des partis politiques, parce que est-ce que au niveau de nos partis politiques, des femmes même ça donne à la politique, ou est-ce qu'elles s'intéressent à postuler? Et est-ce que il y a, je vous ai parlé du critérium, parce qu'on ne va pas prendre n'importe qui pour aligner sur les listes électorales. C'est aussi un travail de fond que les partis politiques doivent faire. De former, on ne dit pas seulement qu'on doit aller à l'université pour être formé, mais qu'il y ait quand même de maintenir de sensibilisation, formation de membres, que ce soit hommes et femmes, parce qu'il n'y a pas seulement les femmes qui n'ont pas, ne sont pas à la hauteur de ce qui se passe, mais il y a aussi des hommes qui sont ignorants de ce qui se passe dans la politique. La loi est là, je vous ai dit que c'est un processus, c'est pas que maintenant là directement on va dire que non, nous quittons d'un point, ça commence toujours par 1.0, 1.1, 2, 3, jusqu'à la fin. C'est déjà quelque chose, quand il parle que nous sommes en Afrique, nous sommes parmi les pays, oui, nous n'avons pas refusé, j'ai dit qu'il y a quand même un engouement, il y a eu un nombre, mais c'est toujours insuffisant parce que nous, c'est un processus. Nous allons, dans nos partis politiques, dans nos mouvements politiques, faire à ce que les femmes, que le nombre de femmes augmente par rapport au scrutin à venir. Je suis d'accord avec lui, merci.
Et alors, par rapport à la loi électorale, si je comprends bien, on pouvait insérer une disposition selon laquelle le parti qui ne va pas aligner 50% des femmes, ça, par exemple, sa liste sera rejetée.
Par exemple, là, c'est une mesure contraignante. Par exemple, oui, ne fût-ce que ça pouvait un peu donner du tonus à la loi.
Voilà, et pourquoi on n'a pas pensé à cela?
Ce n'est pas moi qui ai élaboré la loi, papa. C'est pas moi qui ai fait la loi.
Voilà. Quelles sont les forces et les faiblesses de la loi électorale par rapport à la participation de la femme? Voilà. Par exemple, cet article 13, on comprend que c'est une bonne disposition, mais elle a présente des faiblesses. Alors, quelles sont les autres forces et faiblesses que vous avez pu relever dans cette loi, Madame Angélique?
Les faiblesses dans la loi, d'abord, les femmes démographiquement, nous sommes nombreuses par rapport aux hommes. Et la loi est faite pour les hommes. Les hommes, là, je vois les grands âges, les hommes et les femmes.
Oui.
Je vous ai dit que la loi, elle est bonne, mais manquant des mesures contraignantes, c'est ce qui amène un peu de faiblesse dans la loi. Il n'y a que les mesures contraignantes, voir comment inciter les partis et les groupements politiques à aligner beaucoup de femmes et aussi la population. Parce que il y a des niveaux. Les partis politiques sont les partis qui sont constitués des hommes et des femmes. Est-ce que la population est prête de voir la femme être élevée? Quand d'abord, dans sa famille, elle n'est pas considérée. Quand d'abord, dans son milieu, elle n'est pas considérée. Nous devons sensibiliser les hommes et les jeunes gens, accepter les filles et les femmes, aller de l'avant. D'abord dans la société, et c'est alors que les partis politiques auront cette tâche-là de la socialisation. La socialisation doit partir de la maison. Nous qui vous parlons parce que nous avons été socialisés, à partir de la maison, dans les mariages et dans l'environnement du travail.
Oui, mais certains pensent que les femmes ne s'intéressent pas beaucoup au domaine politique.
C'est ce que je vous ai dit ici, que si la socialisation familiale, tiens d'abord, c'est vous, les journalistes qui êtes avec moi, vous acceptez que votre soeur, votre femme, même votre maman, aille jusque tard. Voilà, pourtant, je vous ai dit que des fois, les gens, je crois avec ça beaucoup de pincettes, les gens pensent que c'est une activité immorale. Des fois, des réunions politiques se tiennent tard la nuit. Vous allez accepter que votre femme, à 1h du matin, soit appelée et pour tenir une réunion. Vous allez accepter que votre soeur, à 3h du matin, soit appelée parce qu'il y a une urgence. Vous allez voir, c'est que votre dame soit jusque trop prise là, elle quitte l'emba, elle va à Barumbu dans des réunions de politique. C'est ça, la socialisation d'abord doit partir de la maison et l'école, les partis politiques.
Si nous interdisons ça, nous pensons que non, quand, comme elle est allée là-bas, elle n'est allée qu'à la réunion. Il n'y a pas des idées derrière la tête. Je pense que vous allez de la femme aller de l'avant. Et c'est tout de même au niveau du parti politique, c'est tout de même là, sera égal. C'est parce que ça va pas vraiment, ça va couler de soi-même, ça ne va pas poser un problème. Ça va couler de soi-même.
Voilà, mais certains pensent aussi que les hommes qui sont surtout au niveau des partis politiques sont tellement machos, ils veulent eux-mêmes, ils sont tellement égoïstes qu'ils veulent pas favoriser les femmes, bien qu'elles soient là.
Mon frère, je vous ai dit que la politique, c'est un univers compétitif, l'univers politique. Mmh. Et je n'ai pas vu une femme qui a ses capacités, qui est compétente, qui mérite d'être bloqué par les hommes. Les droits, je vous dis, les droits se gagnent, ne se donnent pas. Vous n'allez pas rester seulement comme une djaliliste là qui est en train d'acclamer de faire ça. Non, quand vous avez des idées, parmi d'autres, vous ferez distinguer, vous allez remarquer que non, celles-là ne résolvent pas comme tous les autres. C'est comme, tous les hommes ne sont pas intelligents quand même. Pour ne pas vous affirmer, tous les hommes ne sont pas intelligents que les femmes. Mais la femme reste dans son identité de femme. Mais elle participe aussi à l'activité politique, c'est
oui,
ça.
Oui, Madame Angélique, parlez-nous par exemple de votre propre cas. Comment vous avez fait pour vous tailler une place dans cet univers politique au sein de votre parti?
Oui, moi d'abord je vous ai dit que j'ai pas de la socialisation. Mon père fut sénateur dans ce pays, il est mort. Et j'ai toujours là en train de voir comment il fonctionnait, comment il faisait. Je suis d'abord doctorante en sciences pour chasser l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences sociales et administratives politiques, au département des sciences politiques et administratives. Et je suis là en train de voir dans mon passé comment les choses se passent. Moi, vraiment, je ne suis pas complexé. Dès ma nature, chez nous à la maison, mon mari aussi me comprend. Et d'abord, c'est mon premier conseiller. Je ne me vois pas être diminué parce qu'il y a un homme. Non. L'homme est là parce que Dieu a voulu qu'il soit l'homme. Moi, je suis femme parce que Dieu a voulu que je sois ici. Et on travaille en partenariat. Je ne vois pas. Vous savez, le fond, moi, je m'accepte d'abord avant que les gens m'acceptent. J'aime moi-même, là. J'aime moi-même. Et j'aime tout le monde. Je n'ai pas à voir. Non, non. Vraiment, moi, je vois que l'homme est là. Il apporte aussi une pierre. Moi, je ne sais pas porter une pierre. Et c'est ça, nous allons de l'avant. Nous sommes en partenariat politique pour un développement meilleur de notre nation. Il n'y a pas de fin de coup bas. Hier, on m'a demandé à l'UPV, est-ce que l'environnement politique permet que la femme fasse campagne? J'ai dit, oui, bien sûr. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un qui bat campagne contre une femme pour dire que non, c'est cela. Non. Nous, dans notre parti politique, notre société, cela nous avait dit que nous n'allons pas à la guerre, mais sur le terrain, que chacun travaille. C'est tout. Travaille un discours, parle aux gens, et que, à tout à les convaincre, les électeurs sont devenus comme des femmes auprès desquelles on demande la main. Alors, arrive à convaincre cette femme-là pour qu'il te donne sa voix, c'est tout.
Voilà. Alors, quelles sont les autres dispositions que vous auriez peut-être souhaité voir dans la loi électorale actuelle?
Oui, cette loi, comme elle est là, nous avons voulu qu'elle soit une loi qui amène les partis politiques, les regroupements politiques et même les indépendants, qui met tout le monde à l'aise. C'est de l'enseigne d'abord les partis politiques, parce que les partis politiques sont là pour socialiser, pour les formations, former les adeptes, bien les partisans de ces partis politiques-là.
Oui.
C'est parce que la loi doit être à mesure des contraintes de ces partis politiques et le mouvement politique à être à la hauteur des besoins de la population. Et si cette loi est là, elle est contraignante, elle va aider beaucoup de choses dans notre pays. Elle va aider à beaucoup de choses.
Voilà, donc c'est l'aspect qui manque le plus, la contrainte.
Oui, oui, la contrainte.
Bien, nous parlons des forces et faiblesses de la loi électorale par rapport à la participation de la femme, des questions et préoccupations. Composez le 099-706-9941. Oh, Bien, participation de la femme dans, voilà, dans la politique, quelles sont les forces et faiblesses de la loi électorale actuelle. François Mouila, vous êtes à Timbulu, bonjour.
Oui, bonjour messieurs.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, François?
Oui, concernant la loi électorale en vigueur, comme je l'avais souligné dans les commentaires, cette loi a des innovations très importantes, telles que le seuil, la majorité de femmes aussi, et aussi le cas de députés qui n'auront pas la chance de battre campagne comme c'était auparavant, parce qu'auparavant, on jetait des choses et les gens se faisaient du mouron pour ramasser cela et c'était ça créait des problèmes. Il y avait d'autres qui étaient prêts à mourir, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. En dehors de ça, cette loi a aussi des inconvénients très néfastes, parce que si vous regardez aujourd'hui, il y a des députés-là qui auront la chance de rafler les postes. Or, ils ne seront pas votés. C'est-à-dire, il y a des gens-là qui n'ont pas la majorité écrasante, mais sauf la loi a autorisé quelqu'un qui sera député, c'est celui qui, dans son regroupement ou soit son parti politique, on doit avoir beaucoup de députés ou soit beaucoup de voix. C'est-à-dire, cela peut aussi entraîner des ennuis à travers cette loi de députés qui n'ont pas la crédibilité, de députés qui n'ont même pas l'amour envers leur territoire, risqueront de se retrouver sur la liste électorale compte tenu de ce que leurs regroupements ont fait comme voix. Donc, c'est ça au moins l'inconvénient de cette loi. Sinon, on devrait laisser tel que ça a été avant, parce qu'avant, si vous êtes aimé par votre base, on doit vous donner des voix et vous serez déclaré député. Mais vous-même, vous remarquez que pour le moment, ce n'est pas le cas. Même si vous êtes aimé, même si vous n'êtes pas aimé par votre base, le souci, c'est quoi? Que votre regroupement paye beaucoup de voix. Donc, c'est ça au moins une pratique qui touche tout le monde et qui fera à ce que presque tous nos territoires puissent faire un choix plutôt qui sera critiqué par tout le monde et que tout le monde ne va pas aimer. Donc c'était ça le clair-système que je cherchais à donner sur la loi électorale en vigueur.
Bien, merci. Madame Angélique, qu'est-ce que vous pouvez dire à cet auditeur de Timbulu?
Ok, François. Je le remercie d'abord de nous suivre à partir de Timbulu. Il s'inquiète de la nouvelle disposition légale par rapport au seuil et au nombre de gens qui vont être, bon, qui seront proclamés élus alors qu'il y aura de ceux-là qui ne sont pas aimés de leur base, comme il appelle entre guillemets, de leur population, mais ils se verront proclamés députés, quoi que ce soit, alors qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas aimés. Moi, je pense que, il peut ou ne pas avoir raison. La loi est là. On ne sait pas faire autrement. Il y a ce problème des seuils. Dans un regroupement politique ou bien parti politique, on doit d'abord atteindre ce seuil qui est voulu. Et après, on voit les classements. C'est là où je vous ai dit que la femme peut être troisième et quatrième sur les classements, alors qu'on n'a que besoin de deux premiers sur les classements, sur les listes de après la sommation de quoi, du seuil. Ce n'est pas à nous d'être condamnés. La loi est là. Tout le monde, personne n'est au-dessus de la loi. Nous nous prions devant la loi. C'est à eux de lutter pour que ce qu'ils aiment là, dans leur terroir, soit véritablement élu afin qu'ils atteignent les seuils et qu'ils soient les premiers dans la liste. Je pense que c'est pas tard. On est en période de la campagne. Ce n'est pas tard. Comme il y a des gens qui ont postulé qu'ils aiment, qu'ils prétendent aimer, qu'ils éprouvent leur amour envers ces fils bien filles du terroir, qu'ils le votent massivement afin qu'ils aient le seuil demandé par la CENI et qu'ils soient parmi les premiers qui sont retenus sur cette liste électorale. C'est ce que je peux le conseiller.
Oui, Madame Angélique, par rapport à la question, à ces dispositions par rapport au seuil de représentativité, comment ça marche? Comment ça va fonctionner concrètement?
Oui, la question du seuil, la CENI a expliqué ceci. Dans une circonscription électorale, peut-être des mots en bas, Mouamba a peut-être 2 900 000 votants. Et quand on prend les 2 900 000 votants, on divise par 10, on prend les 1% de ces, des 2 millions là. Mmh. Vous avez, c'est 290 000 voix, je pense, bien 29 000.
Oui, on prend les 1%.
Oui. Et les 1% là, c'est ce que votre recoupement ou bien parti politique doit avoir. Si c'est 29 000 voix, le recoupement doit atteindre la 29 000 voix. Mmh. La somme de voix. Et on va voir maintenant sur la liste ceux qui ont eu autant de plus de voix par rapport aux autres. Si vous êtes premier, deuxième, c'est à la tenue qui va faire ce calcul. Si vous êtes premier, deuxième, troisième, ils vont prendre deux personnes ou bien trois personnes, c'est à la CENI. On va encore à une autre liste électorale de notre parti politique. On fait ça, alors on nous proclame on va proclamer les gagnants parmi tant d'autres.
Voilà, et c'est par rapport à cela qu'on va attribuer les sièges au niveau du parti.
C'est pas par rapport à ça qu'on va attribuer les sièges. À chaque parti de mouvement politique, même les indépendants. L'indépendant, lui, n'a pas de voix, il va seulement avoir ses 29 000 voix, et il est élu.
Voilà. Il y a aucune disposition particulière par rapport à la femme au niveau du seuil?
Non, là, c'est là, maintenant, je sais que je vous ai dit avant la première question. Il y a la faiblesse, il n'y a pas une disposition particulière. La femme doit conclure comme tout le monde, elle bat campagne pour qu'elle soit placée parmi les meilleurs élus, quoi. Comme on dit, les députés, les miens élus, la députée, la mienne élue du terroir, c'est comme ça.
Mmh. Il n'y a pas une disposition, voilà. Et on va accueillir Bienvenue Kikala de Kikwita. Bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à notre invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Bienvenue?
Oui, je crois, comme je l'avais si bien souligné sur votre page Facebook, cette loi, moi, à mon avis, je pense, elle comporte beaucoup d'innovations que je trouve salutaires. La première des choses, c'est d'abord sur la question où la publication des résultats doivent se faire bureau de vote par bureau de vote. Je crois, à ce point-là, ça va renforcer la crédibilité ou la confiance des partis prenants par rapport aux résultats ici des urnes, parce qu'on peut facilement faire la compilation même au niveau des états-majors des partis politiques. La seconde innovation que j'avais trouvée, à mon sens, importante, est celle relative à la représentativité féminine. Je crois que dernièrement, on avait fait une émission sur la représentativité féminine. Lorsque la loi a été un peu souple sur les listes qui représentent au moins 50% des candidatures féminines ne peuvent pas payer les frais de cautionnement, je trouve, à ce sens-là, les deux innovations étaient importantes. Mais
oui, bienvenue. On en parle aujourd'hui. Malgré cette disposition, bon nombre de partis politiques n'ont pas aligné 50% des femmes sur leur liste.
Là aussi, c'est tout le débat. Est-ce que les partis politiques, là, dans leur organisation, ils ont eu suffisamment le temps de former les femmes, de susciter les candidatures féminines, parce que l'intention de la loi, on ne pouvait pas imposer aux partis politiques, mais néanmoins, ce sont les partis politiques qui devraient se préparer, parce que la loi a été proposée par les politiciens. Eux-mêmes savaient bien que nous serons butés à tel point. Ils devraient préparer déjà les femmes pour qu'elles soient candidates. Là, je pense que le mal, c'est au niveau des partis politiques, mais la loi, à elle, elle est souple, à mon sens.
Bon, notre invité a dit qu'il a fallu avoir que la loi soit un peu plus contraignante, parce que là, il n'y a aucune contrainte, donc les partis peuvent aligner les femmes ou pas.
Non, mais je dis, moi je pense à ce sens, il fallait mettre tout le monde devant sa responsabilité. Que la loi soit contraignante, oui, mais au moins, les dirigeants des partis politiques doivent savoir qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire sans les femmes. Pourquoi on doit les contraindre pour qu'ils fassent ça? Ça part aussi de la conscience. Lorsqu'on veut diriger, on peut analyser la conscience des gens qui vont nous diriger demain. Pourquoi ces mecs doivent agir sous la contrainte? Là où ça pose problème, je pense.
D'accord. Merci. Bienvenue Kikala de Kikwita. Madame Angélique, votre réaction?
Ouais, je remercie d'abord Bienvenue à Kikwita, là, parce qu'il est à Kikwita aussi. Je pense que c'est pas que les femmes soient inconscientes alors qu'elles doivent diriger demain. Il faut vraiment qu'il y ait une contrainte, tout ça. Non. Nous sommes dans un processus, je l'ai bien signalé dès le début de cette émission. Si nous voulons augmenter le nombre de femmes dans la politique, il nous faut quand même mettre des dispositions quelque part là qui peuvent faire que ce nombre accroisse vite. Parce que nous allons à pas de tortue. C'est un processus, oui. Mais il y a des lois. C'est pas la première loi qui fait. Il y a la constitution qui nous parle dans son article 14 qu'on doit, la femme doit avoir la participation équitable dans toutes les décisions de plus de décisions dans notre pays. Est-ce que nous avons déjà atteint cette équitabilité? Non. Mais la loi pouvait quand même contraindre les partis, ne fût-ce qu'à ce niveau-là, qu'il y ait cette contrainte afin que les partis obéissent. Parce que je ne pouvais pas voir un parti qui pouvait dire comme ou bien un recrutement politique pouvait dire que comme il n'y a pas, je n'ai pas assez de femmes, je ne postule pas. Vous voyez que j'allais même recourir même au tiers pour qu'elles atteignent ce nombre-là afin qu'il y ait cette parité-là au niveau de la liste déposée à la CENI. Il faut toujours qu'il y ait des mesures vraiment contraignantes à la loi afin que les partis arrive à mettre ce nombre légal là. Il a parlé de la formation. Je vous ai dit aussi que c'est au parti politique aussi d'inciter les femmes afin qu'il y ait beaucoup de femmes qui postulent. Quand on voit par exemple qu'on a élevé des femmes à des postes de prise de décision, c'est alors qu'il y aura un engouement. Ah, c'est là devenu ça, c'est parce qu'elle a milité dans tel parti politique. Mmh. Et cela peut aussi amener beaucoup de femmes à entrer beaucoup en politique. C'est aussi ça aussi.
Bien, Roger Marcel nous a dit dans son intervention tout à l'heure que d'après lui, l'une des faiblesses qu'il déplore de cette loi est qu'un seul candidat peut postuler à tous les niveaux. Il est candidat à la députation nationale, il est au niveau provincial, municipal, tout ça, et puis les suppléants, c'est toujours les membres de sa famille, etc. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à cette préoccupation?
Oui, merci beaucoup. Les problèmes de candidature à tous les niveaux là, ça a été débattu. Ce sont les députés qui sont actuellement à l'hémisphère, qui amènent le cycle, qui n'ont pas voulu que cette disposition-là passe. Mais le problème de suppléants membres de la famille, moi qui ne veux pas laisser, j'étais permis de venir dans ma fédération, j'avais soulevé ce problème depuis l'année passée, avant même que la loi ne soit visitée. J'avais dit ces histoires-là de famille, ces histoires-là. Oui, nous avons des membres de famille qui sont aussi membres d'un parti politique. Je peux accepter, mais il faut qu'il y ait quand même un changement de certaines histoires dans nos têtes, parce que on n'est pas là dans un royaume où on doit aller de la femme au mari, des fils au père. S'ils sont membres du parti politique, oui, mais ici on ne l'est pas. Et aussi, bon, nous sommes une jeune démocratie. Il y a quelqu'un qui a dépensé son argent, il ne voit pas une telle personne bien supplément venir l'aider. Il pense aussi ça. Mais si on aime son parti, moi je pense qu'on peut faire que les membres de la famille ne soient pas nos suppléants. Vous avez vu même avec la loi électorale ici, j'ai vu des gens où j'étais des noms qui ont mis leurs enfants, ils ont été réprimés pour enlever les membres de leur famille. Et aussi nous devons être sérieux nous-mêmes, intérioriser certaines valeurs. Quand la loi interdit, on ne doit pas s'en contourner, faire des magouilles pour qu'on devienne ça, c'est pas propre.
Voilà. Et quels sont les avantages que les partis peuvent avoir en alignant les femmes à tous les niveaux?
Oui, la politique, c'est l'art de gérer la cité. Et notre frère de Kikuchi a dit que cette histoire de femmes et hommes, on ne gère pas seul dans ce pays. Ça part déjà de la famille. La famille gérée par le papa et la maman. Et quand nous commençons, je vous ai dit qu'on doit socialiser à partir de la maison. Que la fille, les garçons, le papa et la maman gèrent. Cette gestion-là doit être intériorisée dans nos familles. C'est alors que moi, je peux être quelque part à mon travail, je vois cet homme qui est à mes côtés comme celui qui aide à ce que le travail avance. Je vois cette femme qui est à mes côtés comme mon partenaire, comme elle est là, pour que le travail avance. Parce que un seul doigt ne peut pas laver la figure. C'est ce que j'ai dit que les partis, toi aussi, c'est avec les femmes. Moi, quand nous battons campagne là sur le terrain, les gens nous disent que maman, vraiment, nous voulons quand même que les femmes, hein, j'ai aussi que nous voyons parce que la maman a un cœur qui n'est pas comme le cœur de l'homme. Quand on dit, ça parle les hommes, même les jeunes, ils parlent les vieux, papa, non, maman, nous voulons que nous essayons quand même de faire avec les femmes. Parce que les hommes nous ont beaucoup volé des histoires comme ça. Oui. Et ce n'est pas n'importe quelle femme qui va aller gérer la République. Il faut mériter. C'est la méritocratie. Ce ne sont pas des faveurs. Même quand nous disons que la loi doit être inconsciente, ce ne sont pas des faveurs qu'on donne, mais on doit mériter. Nous avons dit que les droits se gagnent, ça ne se donne pas. On doit mériter. Mm. Et c'est ce que nous voulons que nos soeurs, nos consoeurs soient à mesure. Déjà, d'abord, vous avez vu les femmes gérer. Tout ce temps, vous n'avez pas entendu une femme qui a détourné des millions dans leur gestion, non?
Voilà. Alors, avant de terminer cet entretien, Madame Angélique Moadi, vous êtes femme politique. Est-ce que vous avez un message à passer à toutes les femmes, les candidates, même les femmes qui iront voter? Un message à passer à toutes ces femmes qui vous écoutent maintenant?
Oui. Nous disons à toutes les Congolaises que nous sommes à 52% de la population congolaise. Si nous votons femmes, je pense que nous pouvons changer les choses dans notre nation. Je ne saurais passer cette émission sans passer à nos soeurs de l'Est de la RDC, qui peut-être en ce moment ne seront pas en mesure de voter. Nous leur disons que nous les portons dans nos cœurs, nous sommes ensemble, et que le Seigneur qui arrête le combat va cesser ce combat. Et nous allons parler le même langage. Aux candidates, nous ne faisons pas un combat de muscles. C'est un combat des idées. Qu'elles tiennent fort. Qu'elles tiennent, nous pensons. Nous avons confiance aux femmes parce que nous sommes nombreuses. Je crois que cette législature sera différente par rapport à d'autres législatures. Merci.
Bien. Madame Angélique Moadi, femme politique, merci. Excellente journée et à la prochaine.
Merci à vous aussi de m'avoir accueilli dans votre émission. Merci.